Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Et avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie, Isabelle et Cécile, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dominique.
Cultissime, le festival des œuvres cultes ouvrira ses portes à Angers le 26 septembre et c'est beaucoup plus qu'un salon littéraire, c'est une immersion dans le monde de la création. Des ponts entre toutes les œuvres qui nous entraînent dans leurs univers, grands classiques de la littérature ou manga ou série. Et pour retrouver le plaisir de la lecture et du rêve, Cécile en parle avec notre invitée Bénédicte Hamon en fin d'émission. Marie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout prend forme, c'est le fil conducteur de l'exposition des 30 artistes du collectif Angevin Atelier d'artistes. Pascal Messina, vous êtes avec nous en studio pour nous présenter les propositions que vous pourrez découvrir à Angers du 27 septembre au 12 octobre. Isabelle, si je vous parle d'un espace de découverte et d'expérimentation dédié à l'art numérique, vous me dites ?
Digital.
Floralia, évidemment.
Évidemment, et oui, il s'agit de l'exposition immersive et interactive de Miguel Chevalier qui se déroule actuellement au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Nous recevrons pour en parler Anne Hainaut, directrice des musées d'Angers et commissaire générale de l'exposition. Et on commence tout de suite avec vous Isabelle, c'est parti pour 30 minutes.
Franche Culture, la curiosité sous toutes ses coutures.
Isabelle.
Alors voilà une exposition singulière comme on n'en avait encore jamais vu au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Pas de peintre, pas de toile, pas de pinceau, mais une exposition ambitieuse autour des arts numériques. Anne Hainaut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, directrice des musées d'Angers et commissaire générale de l'exposition digitale Floralia avec Philippe Piguet. Alors, parlez-nous de la jeunesse de cette exposition, pas comme les autres.
Alors, au Musée des Beaux-Arts, on alterne une année une expo d'art contemporain et une autre année une expo plus classique, plus patrimoniale. Là, il nous fallait réinventer une exposition d'art contemporain après le succès de, il y a 2 ans, l'exposition I've Got a Feeling, les 500 dans l'art contemporain. On a confié le commissariat d'expo à Philippe Piguet, qui est extrêmement connu dans le domaine de l'art, critique d'art, commissaire d'expo indépendant. Et donc, il nous a proposé d'exposer Miguel Chevalier, qui connaît très bien, artiste numérique, pionnier dans l'art numérique, qui depuis les années 80 travaille sur ce sujet, comment finalement l'informatique, qui était balbutiante à l'époque, comment l'informatique, les logarithmes, peut les aider en termes d'outils pour une création qui est singulière. Donc, c'est une nouvelle forme de rencontre entre l'art et la science qui existe finalement depuis la Renaissance, mais qui est renouvelée ici avec Miguel Chevalier.
D'accord, donc en fait, il vous l'a emmené sur un plateau, Miguel Chevalier.
Il nous a proposé plusieurs artistes et puis il nous a emmené sur un plateau.
Alors, la première chose qu'on voit quand on entre dans la première salle d'exposition, c'est ce tapis mouvant et interactif où sont projetées au sol des compositions florales. Anne Hainaut, comment se parcourt cette exposition ?
Alors, il y a 3 grandes parties. Donc, comme vous le dites, à chaque fois dans les parties, il y a des grandes projections immersives, certaines interactives, génératives, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est l'intelligence artificielle sur la base de prompts d'indications fournis par Miguel Chevalier qui va générer donc les images. Donc, ce ne sont pas des projections qui tournent en boucle. À chaque fois, c'est généré. Et donc, ce premier tapis floral accueille les gens et donc, il est interactif. Et donc, c'est vrai que le visiteur devient acteur, devient même un acteur et un créateur de l'art. Et donc, il va sur ce tapis magique, ce tapis mouvant. Les fleurs vont apparaître, disparaître, il y a des effets de transparence, des effets de couleur, et donc c'est extrêmement ludique. Mais au-delà du côté très ludique, ça peut aussi faire penser aux nymphéas de Monet, ça peut faire penser aussi à comment Jackson Pollock a révolutionné la peinture en projetant sur des peintures au sol. Donc il y a aussi tout un travail de référence, et pas que du joli décoratif, il y a tout un travail de réflexion qui est fait sur la base du travail aussi que fait Miguel Chevalier avec ses équipes, avec des ingénieurs pour proposer, évidemment, c'est sur la base de propositions artistiques qu'après l'intelligence artificielle va générer, c'est pour ça que c'est génératif, va générer sans cesse des projections, donc c'est jamais la même chose.
Très bien. Alors, je me souviens que dans la deuxième salle, il y a des fleurs qui, quand on passe devant, suivent notre mouvement.
Oui. Alors, dans la transition entre les deux espaces, il y a un morceau de bravoure qui est ce cabinet de curiosité, une espèce de claustra moderne et qui évoque le cabinet de curiosité donc, de la Renaissance, mais un peu complètement réévalué à l'ère 2.0, à base donc d'œuvres qui appartiennent à Miguel Chevalier, de ses créations, des sculptures en 3D, des livres, des références, des objets. Et c'est confronté avec nos propres collections de sciences naturelles, du Muséum d'Histoire Naturelle, donc des herbiers, des ouvrages, des bocaux, et donc voilà, ça dialogue, en sachant que Miguel Chevalier s'inspire beaucoup, évidemment, de tout le travail des botanistes du XVIIIe siècle. La deuxième projection dont vous parlez, elle est murale, elle est en courbe, donc le côté génératif et immersif est encore accentué par l'effet courbe, et là le visiteur passe devant, et un peu comme le vent, là, il fait courber les plantes.
À son passage.
C'est très ludique, c'est encore plus immersif. Et donc là, c'est c'est sur la base d'un herbier. Il y a des graines qui sont dans un herbier virtuel, plus de 200 espèces qui évoluent. Et donc, vous avez tous ces pétales qui tombent comme des pluies. Et quand c'est fini, ça se disperse. Et donc, ça évoque vraiment... Miguel Chevalier travaille beaucoup sur la naissance, la prolifération et la disparition, un peu comme les âges de la vie, finalement.
Des graines virtuelles, ça veut dire que ce sont des graines qui n'existent pas, qui n'existent
exactement.
Que dans l'esprit de
dans
Miguel
l'esprit,
Chevalier.
Mais dans des fichiers. Donc il y a 200 fichiers, et donc il a fait tout le travail de la naissance de ces herbiers, de ces fleurs, puis leur épanouissement et enfin leur disparition. Et donc c'est sur la base de ce corpus, tel un botaniste, qu'il compose et qui fait composer par l'intelligence artificielle donc ces évolutions, et donc ça évoque aussi la fugacité et puis l'aspect floral.
Et la troisième salle, hein.
Alors la troisième salle, c'est à nouveau une très grande projection. Ça rappelle un peu, évidemment, toutes les grands décors monumentaux, depuis les fresques de Pompéi jusqu'aux tapisseries. Dans la ville d'Angers, on pense à l'Apocalypse. Mais là, c'est génératif, mais ça n'est pas interactif. Donc là, c'est plutôt des grandes compositions très mouvante. À un moment, on ne sait plus si on est, alors avec du floral très fluorescent, des effets de superposition. À un moment, on ne sait plus si on est dans l'espace ou si on est sous l'eau, même si on a de très belles évocations florales, de pétales, de tiges, de racines. Et c'est quelque chose qui est très méditatif, très grand. Et donc
c'est très poétique.
Et c'est, alors, il n'y a pas de son. C'est la volonté de l'artiste pour que les gens se concentrent sur le sens de la vue, et de ne pas être justement dans le côté... multiplication des sens. Et donc là, les gens peuvent s'asseoir, même s'allonger sur des fat boys et méditer. Ça plaît beaucoup aux enfants, et c'est bien après ces deux premières projections interactives là, de pouvoir se poser, et c'est extrêmement reposant, comme vous dites, méditatif, poétique. C'est un temps d'arrêt dans ce monde.
Alors, Anne Hénaud, est-ce que vous pouvez nous parler de la thématique choisie ? Pourquoi Digital Floralia ?
Alors, Miguel Chevalier travaille sur différents thèmes. Il travaille beaucoup sur le thème entre art et nature, sur le thème évidemment des flux et des réseaux, le thème des architectures. Là, c'est en écho évidemment avec la vocation végétale de la vie. Donc, digital, c'est un type de plante d'ailleurs qui est un petit peu mortel. Et digital fait aussi référence à l'aspect numérique. Donc, c'est un jeu de mots, et c'est lui qui a proposé ce titre et cette thématique.
Et c'est en lien spécifiquement avec la ville d'Angers, ce titre, ou pas du tout ?
C'est vraiment pour faire référence au Muséum d'Histoire Naturelle, à la vocation horticole de la ville depuis des années. C'est vraiment, comme on a dit souvent, que ce Val de Loire a été le jardin de la France. C'est vraiment cette référence-là que l'artiste a voulu faire revivre.
Alors, vous les avez évoquées tout à l'heure. Quelles sont les techniques employées par Miguel Chevalier ?
Alors, donc, je vous ai dit, il fait beaucoup de travail. Donc, il donne des informations à l'IA, donc des logarithmes, mais après donc tout un travail qui est fait de projection. Donc ce sont des programmes aléatoires, donc ça n'est jamais la même projection, mais il fait d'autres techniques. Il fait aussi des projections sur des tapisseries, il fait aussi des résines en 3D, c'est-à-dire à partir de ces fleurs virtuelles, il va en extraire, il va pouvoir faire les rendre tangibles en les faisant réaliser en 3D en résine. Donc on passe du virtuel au réel. Il fait également de la digigraphie, donc une forme d'impression. Il fait vraiment de beaucoup beaucoup de choses différentes, des hologrammes, de la découpe au laser, donc pour rendre tangible. Et donc cette multiplicité de supports montre bien que ça n'est pas que du virtuel, mais aussi du réel, et que ces créations peuvent évidemment s'incarner dans différents types de supports.
Alors, on est au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Est-ce qu'on peut parler d'art à ce propos ?
C'est une vraie création, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle ne part pas de rien. C'est vraiment tout un travail qui est fait, au départ des dessins, puis des prompts, puis des indications. Enfin, c'est vraiment tout un travail qui est fait. C'est vraiment l'artiste qui crée à partir d'éléments. La génération informatique, numérique, elle ne se fait qu'à partir de cette base créative.
Oui, il y a ce travail en amont où il porte plusieurs casquettes finalement pour arriver à ses fins.
Exactement.
Et est-ce que vous pouvez nous parler des prochains événements qui auront lieu au Musée des Beaux-Arts concernant cette exposition, s'il
Alors, vous plaît. Comme d'habitude, notre exposition est accompagnée d'une multitude donc, de programmations. Je vais vous citer une performance sonore qui va avoir lieu le vendredi 17 octobre. Donc, Polinaria, et donc, c'est une résidence en partenariat avec l'Institut Confucius. Et donc, là, pour une fois, on aura le sonore qui viendra percuter les images, mais pour un caractère événementiel.
Et une question qui concerne le public. Je voulais savoir si cette exposition, qui est un peu hors norme pour le Musée des Beaux-Arts d'Angers, a amené plus de visiteurs que les autres expositions, et est-ce qu'il y a un nouveau public ?
Alors, c'est vrai que c'est inédit. Hein. C'est la première fois qu'on avait de l'art numérique de cette nature au Musée des Beaux-Arts, même s'il y a eu d'autres créations contemporaines. Ça fonctionne extrêmement bien auprès des publics, notamment auprès des jeunes publics. Alors, vous savez, les adultes ont toujours un peu de réticence à courir sur le tapis floral, les enfants absolument pas. Donc, ça fonctionne extrêmement bien, les familles, les jeunes, les ados. Vraiment, le public vient en nombre. Aujourd'hui, du patrimoine, on l'a vu, il y avait une file d'attente. C'est vraiment c'est quelque chose qui est inédit. Et donc les gens sont admiratifs. C'est toujours du côté, d'abord, le côté technique, mais après, évidemment, aussi, sur la proposition esthétique de Miguel Chevalier.
Et Miguel Chevalier n'était pas connu par eux quand ils arrivent au musée ?
Pas forcément. Alors certains peut-être parce qu'il y a un livre Skira qui a été édité récemment. Il a présenté l'année dernière une exposition au Grand Palais Immersif. Il fait des expositions partout dans le monde. Donc il y a sans doute des personnes qui le connaissent, mais le grand public moins. Et donc là, c'est une vraie découverte de cet artiste ici à Angers.
Isabelle et Anneno, merci beaucoup. L'exposition digitale Floralia est donc à voir au Musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 18 janvier prochain. Et pour tous ceux qui sont fans de ce nouvel art, je signale l'expo de Miguel Chevalier en cours à Munich, à la Kunsthalle. C'est 1700 mètres carrés d'installation. Petite page musicale, on écoute Miley Cyrus, Flower. Pardon, chers auditeurs, pour ce petit blanc, mais maintenant avec nous Marie, on retrouve le collectif Angevin, atelier d'artistes, pour leur exposition exceptionnelle entre deux ouvertures d'ateliers.
Trois lieux d'exposition autour d'une réflexion attribuée au chimiste Antoine Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout prend forme. Pascal Messina, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre, vous, de ce collectif d'artistes Angevin. Quel sens avez-vous donné à ces mots attribués à Antoine Lavoisier?
Alors, On a pensé que ces mots pourraient correspondre à une réflexion d'artiste. Et on s'est permis quand même de transformer un petit peu la phrase, justement, puisqu'on parle de transformation. Lavoisier parle d'une transformation chimique. Nous parlons de créer quelque chose. Donc on a gardé les deux premières phrases. Rien ne se perd, tout de suite on pense à la récupération. Alors, il s'agit de récupération, mais pas seulement matérielle. Il s'agit de récupération d'histoire, de rêve, de personnalité, de choses que chacun de nous a enfouies tout au fond de soi et qu'on essaye de faire ressortir en créant une œuvre à partir de qui va pas être forcément jolie, très esthétique, mais ça va aller beaucoup plus profondément.
Donc là, c'est rien ne se perd.
Ça, c'est rien de se perdre.
Et rien de se créer, là, ça m'a
alors,
quand même un peu surpris,
c'est des créateurs. Oui, justement, alors on y a pensé, et je pense que rien de se crée, c'est l'idée de dire, en fait, tout est là, déjà. Tout est au fond de nous, tout est dans la nature, tout est présent, il n'y a plus qu'à aller le chercher, creuser pour le faire ressortir, et aboutir à la troisième phrase, tout prend forme, c'est-à-dire tout devient œuvre. Œuvre intime.
Voilà le sens donné. Donc, il y a trois lieux d'exposition hein.
Oui.
Cette année. La chapelle Saint-Lazare, qui est derrière la place Bichon, rue Saint-Lazare. Il y a la volière du Jardin des Plantes, faut rentrer rue Borot.
Oui,
la grande entrée
du Jardin des Plantes. Il y a deux entrées, voilà.
La grande entrée, c'est place
Alors, ça, c'est quand même ça. On a presque supplié la ville d'Angers, c'était notre idée. Alors, on n'aura pas le droit d'y rentrer, mais on verra les œuvres des artistes à travers les vitrines qui servaient avant de volière et de canards. On voyait les canards. Il y en avait encore quand on a visité les lieux.
Il y a eu longtemps des animaux exotiques. Voilà. Et là, oui, c'est vrai que le lieu est insolite. Il n'a jamais servi pour des expos. Voilà. Et aussi, là où vous exposez, vous, c'est la Tour Saint-Aubin.
Voilà, tous ces étages. Saint-Aubin, avec le rez-de-chaussée, ça c'est assez connu du public. Mais cette fois, on a droit à l'étage, qui est magnifique, qui fait 20 mètres de haut, qui est assez insolite déjà au départ. Donc,
et là, qui se situe en plein centre-ville d'Angers, voilà. Place du Musée.
Accessible par l'extérieur.
Voilà, donc là, vous y êtes, vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, concrètement, de ce message d'Antoine Lavoisier ?
Alors, on a tous cherché... en fait, c'est difficile, sûrement pour le commissaire d'exposition qui est Claude-Henri Céleste, parce qu'on est 30 artistes. Et évidemment, ça touche tellement à l'intime qu'on a 30 propositions complètement différentes.
Alors la mienne, Tour Saint-Aubin.
Elle part de souvenirs, de rêves, on va dire.
Ah.
Parce que mon explication commence par qui n'a jamais rêvé de survoler un atoll. Donc moi, je parle d'un atoll en plein océan. Et pour ça, j'ai quand même récupéré pas que des souvenirs d'images ou de rêves d'enfants, mais des choses concrètes que rejettent justement les océans.
C'est-à-dire rien ne se perd, c'est vos rêves.
Oui, rien ne se perd, c'est ça part de mon rêve. Rien ne se crée, on s'aperçoit que tout est là, parce qu'on cherche dans notre idée ce qu'on va pouvoir créer. Et puis, tout prend forme. Alors, ça prend la forme d'un atoll, mais avec des matériaux de récupération que la mer rejette, justement, comme le métal, le plastique. Et alors, partant de ces matériaux-là, l'idée, c'était au contraire de... presque une réhabilitation, de récupérer ces outils-là et d'en faire quelque chose qui rappelle la nature et qui nous rappelle surtout que la nature est fragile et qu'il faut en prendre grand soin.
Les océans, ils nous rejettent aussi du bois flotté et des algues, c'est pas ce que
j'ai
utilisé.
Oui, alors justement, mais j'ai aussi des coquillages. Des petits coquillages qu'on appelle des dentales, qui sont des espèces de petites défenses d'éléphants nains, on va dire, que je ramasse depuis des années sur les plages. Et tout est parti de là, en fait. Donc, récupérer des choses que la mer rejette, qui sont naturelles, mais qu'elle rejette quand même. Il n'y a plus l'animal à l'intérieur. Et après, de chercher d'autres matériaux que rejette la mer, et qui cette fois, elle n'avale pas, elle ne dissout pas, mais d'essayer d'en faire quelque chose qui soit esthétique et qui rappelle surtout ce besoin de garder...
Qu'il soit esthétique, donc vous avez un sens du beau, vous avez rendu quelque chose
oui,
de beau.
Oui, mais on n'a pas tous ce sens-là.
C'est pas du déchet. C'est-à-dire...
Non, pas du tout, au contraire, on essaye de transformer
c'est beau.
Ces choses qui sont laides finalement, comme des bouteilles en plastique ou des capsules de vin ou des choses comme ça, et on essaye d'en faire notre univers qui lui rappelle la nature sauvage.
Alors ça, c'est ce que vous avez fait vous, Pascal Messina, Tour Saint-Aubin.
Oui.
Et parmi les 30 autres exposants, qu'est-ce que...
Alors s'il y a quand même quelqu'un qu'il faut signaler, c'est Jacques Villeglé.
Comment il s'est exprimé alors ?
Qui est décédé. En fait, mais on avait au tout départ, avant le Covid, on avait contacté cet artiste-là. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, il faisait des tas de travaux à partir d'affiches qu'il déchirait. Enfin, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu artistique. Et du coup, on a contacté sa fille qui nous a confié des œuvres de son père. Et donc, c'est un petit peu le...
Donc, la récupération d'affiches dans la rue, sûrement ?
Non, alors, non. Lui, c'est un travail particulier qu'il avait fait sur ce thème-là. Donc, c'est plus... tout prend forme. Ça a pris forme dans son esprit. Sinon, on a ouvert quand même toute notre association à des gens de l'extérieur. Il y a une Américaine, il y a un Allemand, il y a des gens qui ne sont pas dans l'association. Comme toujours, chaque fois qu'on fait une grande exposition comme ça, on ouvre un petit peu notre éventail d'artistes pour pas rester confinés entre nous, mais au contraire avoir d'autres visions.
Donc il y a de la sculpture, de la photo,
ah là,
du décollage.
Oui, il y a de tout. Tout est un petit peu récupéré, mais dans l'intime de chacun, pas forcément en matériaux.
Pascal Messina, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du collectif d'artistes Angevin, Atelier d'artistes.
Et tous les renseignements pratiques autour de ces expositions sont à retrouver sur le site atelier au pluriel -artiste au pluriel -angers.com.
Tranche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de la lecture, c'est l'objectif du festival Cultissime qui aura lieu à Angers les 26, 27, 28 septembre prochain. Cécile ?
Oui, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse avec ce slogan, alors qui n'est pas de Cultissime, hein, mais d'Alfred de Musset, le festival Cultissime annonce clairement la couleur. Le maître mot, c'est quoi ? C'est le plaisir, quelle que soit la forme de création, car seul le plaisir mène durablement à la lecture. Une approche novatrice, et comme on a dit dans l'introduction, ce n'est pas un salon littéraire, c'est vraiment un festival. Bénédicte Hamon, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes en plein rush pour la préparation là actuellement. Vous êtes responsable, vous, des partenariats du festival. C'est cette année la deuxième édition. Alors j'ai deux questions pour commencer. C'est quoi une œuvre culte, puisqu'on parle de cultissime? Et c'est quoi exactement le concept de ce festival?
Alors une œuvre culte, c'est une œuvre, on va dire, qui a cette capacité à s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire vraiment à perdurer, à traverser les générations, mais aussi justement peut-être, et c'est là un des propos du festival, d'inspirer à la fois les générations suivantes, les auteurs et autrices et les artistes suivants, c'est-à-dire qu'ils vont aller puiser dans ce que ça leur aura inspiré, dans les références que ça aura créées, etc., pour créer de nouveau. Et ça, c'est une notion qu'on aime bien avec le festival, puisque on aura l'occasion d'y revenir. On n'est pas effectivement juste sur un salon du livre, mais on propose à nos invités de s'exprimer autour de ce sujet-là et de parler non seulement de leurs œuvres à eux, mais des œuvres cultes qui les ont inspirés, qui leur ont donné soit envie de lire, soit envie d'écrire, soit les deux. Voilà, donc on trouve que ça illustre ça particulièrement.
Alors justement, vous, en deux mots, votre œuvre culte, qu'est-ce que c'est ?
Alors moi, mon œuvre culte, c'est un manga. C'est un manga qui s'appelle Dragon Ball, donc je pense que beaucoup des auditeurs connaissent. Et je trouve que c'est... promis, je n'ai pas choisi exprès. Mais je trouve que c'est intéressant justement par rapport au propos du festival. C'est qu'en fait, c'est un manga qui a été créé en 1984, mais qui s'inspire énormément d'un roman chinois du XVIe siècle. Et dans les années 80, au Japon, c'est devenu un manga qui est encore aujourd'hui un des plus vendus au monde. Donc voilà, je trouve que...
Oui, alors là, vous touchez vraiment au concept de ce festival, hein, qui n'est pas un festival ni cloisonné, ni élitiste, puisque vous montrez que toutes les formes de production se rejoignent, se nourrissent, s'inspirent. Mais parfois, c'est assez étonnant de voir des liens comme ça entre des œuvres aussi différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui va être illustré justement dans des conférences ou pendant le festival, de voir le lien entre une œuvre du Moyen-Âge, une œuvre de l'Antiquité et une œuvre aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Bah, c'est effectivement ce qu'on a beaucoup envie de mettre en valeur. C'est pour ça que, par exemple, donc il y a forcément beaucoup de contenus différents dans le cadre du festival. Lorsqu'on a des auteurs et autrices qui viennent sur des grandes rencontres parler de, évidemment, leur actualité littéraire, comme dans beaucoup de salons et de festivals, mais ils vont aussi parler directement de leurs sources d'inspiration. Mais on a aussi, par exemple, des tables rondes où on a plusieurs auteurs, autrices ou aussi des personnalités du monde de l'édition qui viennent entre eux débattre d'un sujet justement en lien avec les œuvres cultes et où est-ce qu'ils vont puiser leur inspiration pour voilà, aborder tous ces sujets-là et justement on va aborder ces thématiques-là de comment les œuvres cultes traversent les âges. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on ne va pas que parler d'œuvres très anciennes qui inspirent la création d'aujourd'hui, mais aussi de comment certaines œuvres d'aujourd'hui, et c'est notamment l'objet des prix cultissimes qui sont remis dans le cadre du festival, comment des œuvres d'aujourd'hui ont ce potentiel et cette capacité à s'inscrire dans le temps pour les décennies, peut-être même les siècles à venir.
Oui, il y a 4 prix qui vont être remis vendredi soir. Alors, on ne va pas revenir sur tous les nominés, mais quels sont ces prix, justement?
Alors, les prix cultissimes qui sont décernés, donc on retrouve le prix du roman, le prix du livre jeunesse, le prix de la réédition, parce que ça, c'est aussi un aspect qu'on aimerait mettre en valeur, parce que c'est assez méconnu, c'est comment on va justement rééditer certaines œuvres très anciennes pour les remettre au goût du jour, leur permettre de toucher un nouveau public, justement grâce à la manière intelligente dont elles auront pu être rééditées. Et enfin, le 4e prix, c'est le prix de l'adaptation, donc cinéma, série ou autre, parce que un de nos messages clés aussi, c'est de dire qu'il y a plein de manières d'arriver à la lecture et ce n'est pas forcément notre premier point d'entrée. Ça peut aussi avoir un aperçu d'une œuvre en regardant une série, en regardant un film. Par exemple, la série Game of Thrones, qui a connu évidemment un énorme succès ces dernières années, est directement, beaucoup inspirée des Rois Maudits, sans spoiler. Parce que, voilà. Donc, c'est vraiment notre parti pris, de dire qu'il y a plein de manières d'arriver à la lecture et on veut toutes... En tout cas, les valoriser, c'est peut-être dur d'être exhaustif. Oui, mais...
Comme Orgueil et Préjugés, le film a fait lire Jane Austen et redécouvrir Jane Austen auprès de beaucoup, beaucoup de jeunes. Et justement, est-ce que ce n'est pas ça le nerf de la guerre chez vous? C'est-à-dire que vous êtes très éclectique, mais de manière à ramener les gens à la lecture.
Exactement, soit les amener, soit les ramener. Et aussi, je pense, beaucoup favoriser le dialogue. C'est-à-dire que, le dialogue et les échanges, il n'y a pas une hiérarchie qui dit le roman, c'est mieux que la BD, qui est mieux que ci, que ça, etc., que les séries. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des manières différentes de consommer des contenus, mais qui nous ramènent à ces œuvres cultes. Et si ça peut permettre de faire dialoguer des parents avec leurs enfants, en tout cas des générations, des gens qui ont des habitudes de consommation culturelle ou des goûts différents, si ça peut nous permettre de tous les faire dialoguer ensemble.
Voilà, on allait y venir, mais c'est un festival intergénérationnel. Je veux dire, le Féru Littérature peut venir parce qu'on va le voir. Il y a des invités prestigieux, des grands écrivains, mais il y a aussi des ateliers, des spectacles pour les enfants, des ateliers d'écriture, des spectacles de création, etc. Alors venons aux invités, justement, parce que c'est la 2e édition. L'année dernière, vous aviez déjà un beau plateau. Vous avez à nouveau un beau plateau. 3 parrains. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'invités.
Oui.
On ne peut pas tous les citer, sinon il va y avoir des jaloux. Parlez-nous des parrains.
Bien sûr. Nous avons donc 2 parrains et une marraine. Donc, nous avons David Fuenquinos qui, va représenter le roman, Timothée de Fombelle pour la littérature jeunesse et Marguerite Aboué pour la bande dessinée. On avait envie d'avoir des représentants de ces 3 genres. On pourrait avoir des représentants de beaucoup plus de genres, mais comme vous le dites, malheureusement, on ne peut pas réunir tout le monde, ce sera pour l'année prochaine.
Donc il y aura des rencontres assez classiques, des tables rondes. Oui. Parlez-nous des thèmes des tables rondes, parce qu'ils sont assez étonnants. Justement, ce n'est pas uniquement la présentation de leur livre ou de leur œuvre, ce sont vraiment des discussions sur la création.
Oui. Tout à fait. C'était justement l'idée. Les rencontres, on a des auteurs et autrices qui viennent de parler de leur œuvre et de leurs inspirations, donc pas mal d'eux, soyons nets. Les tables rondes, c'est mettre plusieurs personnes autour de la table et discuter d'une thématique. Par exemple, on a une table ronde qui s'intitule « Adapter son écrit à l'écran, quel cinéma ?» Et on a plusieurs auteurs et autrices dont les œuvres ont été adaptées au cinéma, mais voilà, dans des registres très différents. On va aussi avoir des tables rondes sur la littérature jeunesse, voilà, sur la poésie, sur les mondes de l'imaginaire. Enfin, voilà, c'est vraiment des dialogues avec des propos qui vont être complémentaires et qui vont s'enrichir les uns des autres.
Donc, c'est un festival, il faut le dire, qui peut aussi être proche, enfin, être intéressant pour des enfants. Qu'est-ce que vous avez spécifiquement pour les enfants et les familles ?
Alors oui, effectivement, on a à la fois des contenus et des tarifs, c'est plutôt une bonne nouvelle. On cherche effectivement à favoriser le fait que les gens viennent en famille. Donc on a des représentants de la littérature jeunesse, donc à la fois que les enfants et ados vont pouvoir venir rencontrer en vrai pour faire dédicacer leurs ouvrages. On a tout un espace dédié aux animations, donc avec des professionnels, que ce soit des associations, etc., qui vont proposer des animations par tranche d'âge, parce que c'est quand même important de distinguer ça et d'avoir des contenus adaptés.
À partir de 3 ans, j'ai vu.
Oui, tout à fait, à partir de 3 ans, sur des thématiques très larges, mais autour de la lecture, donc, qui vont de fabriquer son marque-page à des jeux de rôle, des énigmes, du coloriage, des concours d'illustration, etc.
Bon, vous l'aurez compris, une programmation vaste. On ne peut qu'encourager les auditeurs à aller voir et choisir et piocher sur le programme. Et 4 lieux, le Château d'Angers, la Collégiale Saint-Martin, les Salons Kurnonski et le Musée des Beaux-Arts.
Merci Bénédicte Hamon, merci Cécile bien sûr. Le Festival Cultissime a lieu donc ce week-end prochain, 26, 27, 28 septembre. C'est l'achat des places se fait sur le site cultissime.org. Le programme est très vaste, les prix sont très abordables. Un exemple, le pass 3 jours est à 26€, 20€ pour les étudiants. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci beaucoup à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur tous les réseaux sans modération. Très belle semaine à vous tous et surtout très bon week-end prochain.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.